You're with SBS Radio.
Magazine des sports de ce jeudi avec le tournoi de Roland-Garros hier. Il n'y a pas eu de match et il faut blâmer la pluie. Le directeur du tournoi, Guy Forget, a cette pensée pour les spectateurs déçus et aussi les joueurs qui sont plutôt relax.
J'en ai croisé effectivement un certain nombre. J'ai vu des visages plutôt détendus. Vous savez, aujourd'hui, je pense plus aux spectateurs et aux familles qui sont venus de quatre coins de la France et qui sont abrités pendant des heures à l'abri des tribunes. Pour certains qui étaient mouillés, pourtant j'entendais des rires, je voyais des sourires. Vous savez, les joueurs et les joueuses, ils sont bien lotis, ils ont une capacité d'accueil qui est très confortable, ils ont des repas chauds, ils ont même des endroits où ils peuvent dormir, ils sont avec leur famille, ils peuvent se faire masser. Ça fait partie du quotidien d'un joueur professionnel d'attendre parfois une demi-journée, une journée entière pour, le cas échéant, jouer même un set. Ils sont tous de grands professionnels. Ce n'est pas eux qui me tracassent, c'est plus justement tous ces gens qui sont venus et qui rêvaient de cette journée à Roland-Garros et qui vont repartir pour certains ce soir et qui diront ben voilà, voilà notre souvenir de Roland-Garros. Ça, c'est un peu dur.
Pour rappel, si les matchs ont lieu ce jeudi, il y aura les quarts de finale dames avec l'Australienne Ash Barty qui jouera contre l'Américaine Madison Keys, la Roumaine Simona Halep, tenante du titre, jouera contre l'Américaine Amanda Anisimova. La Tchèque Markéta Vondrousova affrontera, elle, pour une place en finale, Johanna Konta, la première Britannique en demi-finale depuis 1983. Chez les messieurs, les quarts de finale à jouer avec Novak Djokovic, le Serbe, qui jouera contre l'Allemand Alexander Zverev. L'Autrichien Dominic Thiem jouera contre le Russe Karen Khachanov. Rafael Nadal jouera contre Roger Federer en demi-finale et c'est prévu pour demain vendredi. On va revenir sur Roger Federer qui a battu Stan Wawrinka l'autre jour en quatre manches. Il est très heureux de retrouver Rafael Nadal sur terre. On l'écoute.
La référence, il est tellement incroyable les dernières années que si tu reviens sur terre et tu essaies de faire quelque chose, bah, il faut à un moment donné passer par Rafa. Bah, il n'y a pas de miracle. Alors, de mon côté, je me réjouis énormément pour ce match. Je suis déjà trop content d'avoir fait la demi-finale ici. Alors, encore moins de pression de mon côté. Je vais essayer mon maximum. Je sais que c'est pas gazon, c'est pas dur, c'est pas juste si je sers bien, je peux le mettre en difficulté ici. C'est vraiment beaucoup plus. Faudra voir, parce que jusqu'à là, maintenant, il était rouleau compresseur. Alors, c'est forcément pas un match évident à jouer.
Et ce sera la 39e rencontre entre les deux joueurs, la 16e sur terre battue. On passe au foot, la Coupe du Monde féminine et le coup d'envoi demain avec la France qui jouera la Corée du Sud. Les enjeux ne sont pas que sportifs, comme nous l'explique Éric Chorin pour RFI.
Un an après la deuxième étoile décrochée par les joueurs de Didier Deschamps, à quoi peuvent donc rêver Corinne Diacre et ses joueuses, la milieu de terrain Gaëtane Tinet?
Dans mes rêves, évidemment, j'ai envie d'être championne du monde et j'y pense. Mais c'est loin, il y a tellement d'efforts, de courses, de sauts, de changements de direction, de frappes et de passes.
Car il va y en avoir des courses, des sauts, des dribbles, des frappes et des arrêts lors des 52 matchs de cette 8e Coupe du Monde féminine sur 9 stades de l'Hexagone à Nice, Paris, Reims, Rennes, Valenciennes, Le Havre, Grenoble, Montpellier et Lyon. Et elles sont nombreuses parmi les 552 joueuses des 24 équipes en piste à nourrir le même rêve, être championne du monde le 7 juillet. À ce jour, seules les Norvégiennes et les Japonaises, une fois chacune, les Allemandes, deux fois, et les Américaines, trois fois, y sont parvenues. Et pour la vice-présidente de la Fédération française, Brigitte Henriquez, si les Bleus font partie des outsiders avec les Anglaises, les Japonaises, les Brésiliennes ou les Néerlandaises, championnes d'Europe en titre, les places fortes du football féminin restent les favorites.
On sait très bien que les États-Unis sont toujours au rendez-vous. Cette équipe, même si elle est en phase de transition, on sait à quel point elle se prépare depuis des mois. Ils ont rarement raté des rendez-vous. On a l'Allemagne aussi, qui était aussi un peu dans une phase de transition, que c'est une nation qui lâche rien. Donc on sait très bien qu'elles vont aussi avoir fait ce qu'il faut pour être performantes.
Plus performantes, sans doute, que les Chiliennes, les Écossaises, les Jamaïcaines et les Sud-Africaines, dont c'est le premier mondial. Un rendez-vous qui sera suivi par plus d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde et qui entend dépasser le million de spectateurs spectateurs dans les stades français, le directeur du comité d'organisation, Erwan Leprévost.
Initialement, on pensait avoir un public très franco-français, 90% des spectateurs. Or, c'est plus le cas. On a plus de 40% des gens qui viennent du monde entier pour assister au match de la Coupe du Monde. On a tous les pays qui sont représentés. Elle parle évidemment des USA, mais il y a aussi les Pays-Bas qui vont se déplacer en nombre. L'Allemagne, qui est également fortement présente. Aujourd'hui, on prend un exemple. On a un Angleterre-Écosse à Nice. On a plus de 14 000 spectateurs, dont 4 000 Anglais et 4 000 Écossais. Donc tous les chiffres démontrent que notre Coupe du Monde va être extraordinaire.
Une Coupe du Monde extraordinaire et un coup de projecteur qui ne l'est pas moins sur un football féminin qui aspire toujours à sortir de l'ombre des garçons malgré sa mondialisation. Pour les Françaises qui ont triplé leur nombre de licenciés en moins d'une décennie, une Coupe du Monde à la maison, c'est bien sûr l'idéal à condition d'aller loin, en clair, jusqu'à la finale le 7 juillet. Et là, comme le dit la capitaine des Bleus, Amandine Henry,
on a tout à écrire.
Et puis les 23 Français champions du monde en 2018 ont été reçus à l'Élysée mardi. Ils ont reçu la Légion d'honneur du président français Emmanuel Macron. Reportage Lucie Bouteloup pour RFI.
Monsieur Kylian Mbappé, au nom de la République française, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Les Bleus, chevaliers de la Légion d'honneur. La récompense avait été annoncée aux joueurs dès le lendemain de leur sacre en Russie en novembre dernier. Pourtant, l'émotion était bien palpable cet après-midi à l'Élysée. Recevoir la plus haute des distinctions honorifiques françaises, pour Paul Pogba, c'est un moment rare.
C'était vraiment émouvant, c'était unique. C'est juste un moment sacré, c'est un moment magique pour nous. Et voilà, ça c'est peut-être une fois dans ta vie, donc on le savoure ces moments.
Pour l'occasion, Emmanuel Macron avait préparé un discours truffé d'anecdotes. Un moyen de faire revivre les moments forts de la dernière Coupe du Monde, de dire sa fierté aux joueurs, mais aussi de leur rappeler le sens de cette décoration.
Maintenant, tout au long de votre carrière, puis de votre vie de citoyen français, vous aurez apporté cette part d'exemplarité qui va avec cette décoration. Et donc, en même temps qu'elle vous fête et qu'elle vous célèbre, en même temps qu'elle vous honore, cette Légion d'honneur vous oblige. Ne l'oubliez jamais.
Une responsabilité qu'Antoine Griezmann ne prend pas à la légère.
Beaucoup de fierté, c'est aussi beaucoup de devoirs pour la suite. Donc on a envie de donner une bonne image de la France et des Français.
Je rappelle que le président français a déjeuné avec les joueuses de l'équipe féminine de foot, on parle des Françaises bien sûr, avant la Coupe du Monde qui démarre le vendredi 7 juin, donc demain. Les Matildas, elles, se préparent malgré cette défaite de 3-0 pour le dernier match de préparation aux Pays-Bas. Elles sont à Valenciennes depuis hier mercredi. La joueuse Hayley Raisso et la milieu de terrain Tameka Yalop garde le moral, on les écoute.
We're confident and we're excited to get going in the World Cup. So I think it hasn't disheartened us too much. It's just I think put a little bit more drive into us to want to win these next games.
We tried to stick to our game and play possession and I don't think it was a 3-0 game, so a couple of things we need to fix and yeah, move forward.
sbs.com.au